Divergence FM, l'interview.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le photographe documentaire et photojournaliste Yann Castagnier. Bonjour Yann.
Bonjour.
Alors, vous êtes né à Sète et maintenant vous vivez et travaillez à Paris. Si on vous invite aujourd'hui dans les studios de Divergence FM, c'est parce que vous publiez votre premier livre photo. Alors ça doit être un grand moment. Le livre s'intitule « Je vous regarde disparaître » et vous avez passé 15 ans auprès de vos grands-parents à les photographier. On va en parler en détail de ce livre, bien sûr, mais d'abord, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours photo ?
Alors mon parcours photo, il démarre à 7 justement, où j'ai fait un premier reportage sur les SDF pendant 2 ans, en fait, qui vivaient en squat. À 7 et un peu à Montpellier, mais principalement à 7. Et il y a toujours eu cet intérêt qui a perduré du temps long, en fait, pour pouvoir dire les choses en nuance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai fait plusieurs reportages comme ça à l'étranger, puis j'ai repris des études et ensuite je suis revenu à Paris. Et là, j'ai démarré plutôt du photojournalisme en temps très court, où j'ai travaillé pour Libération, Le Monde, sur la couverture de l'actualité politique et sociale en France pendant 6 ans. Donc voilà, couvrir les campagnes présidentielles de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, le feu de Notre-Dame de Paris, la crise des Gilets jaunes, l'Arc de Triomphe, toutes ces choses-là. Et ce temps court est très étouffant, en fait, et j'ai eu envie de revenir au temps long. Donc je faisais déjà un peu des sujets documentaires, comme un an en hôpital psychiatrique, etc. Mais sortant de ce temps très court, là, j'ai décidé de développer ce livre qui est un temps très long, puisque c'est 15 ans de photographie.
D'accord.
Et voilà, et avoir un bel espace pour raconter des histoires.
Donc, on va y revenir justement à ce livre. Quand est-ce que vous êtes dit, au bout de 15 ans, que ça y est, le livre était prêt, que le projet était terminé, qu'on pouvait enfin en faire une finalité ?
Ouais, c'est venu au fur et à mesure, cette idée du livre. C'est-à-dire qu'au début, je pensais attendre le décès de ma mamie, mais qui est toujours vivante. Et puis le temps passant, il y a 2-3 ans, j'ai commencé à voir que les photos étaient hyper redondantes parce qu'elle avait atteint un stade de dépendance. Voilà, et depuis un an et demi, elle m'a oublié, elle ne sait plus qui je suis, quoi. Ouais. Et donc en fait, on est arrivé c'est fini l'histoire, c'est ça y est, elle m'a oublié. Et c'est moi qui continue à la regarder disparaître. Mais l'histoire en elle-même du lien qui s'est étiolé est finie. Donc là, je me suis posé la question de faire un livre et de contacter les maisons d'édition, et les éditions Révélateurs m'ont dit oui.
Justement, c'était ma prochaine question. Quelle est la maison d'édition que vous choisissez et comment on fait pour en choisir une, justement, pour un livre de photos documentaires ?
Ouais, alors moi, ça allait assez vite parce que, en fait, je connaissais Didier Bizet, qui était membre de l'agence par laquelle je suis diffusé, Chance Lucas, qui a fondé cette maison d'édition avec Charlotte Vanier.
D'accord.
Et en fait, Didier avait déjà vu mon travail. Et j'ai pas eu le truc à devoir faire une pré-maquette, chercher toutes les maisons d'édition autour. J'en ai parlé à Didier et il m'a dit directement oui, ce qui était une chance. Donc ils étaient partants pour le projet, ça s'est fait assez naturellement. Et en fait, moi, ils ont créé la maison d'édition il y a peut-être 3 ans. Je voyais les bouquins qui sortaient au fur et à mesure qu'ils faisaient. Je voyais que c'était des beaux livres.
D'accord.
Que c'est vraiment de l'artisanat, comme j'adore. Et il y a une attention à l'objet qui est produit. Et ça, c'était hyper important. Et avec eux, je sais que je peux échanger sur ça et pas me faire déposséder en fait de mon travail et avoir une maison d'édition qui va le prendre, le remâcher, le remixer, le faire à sa sauce pour que ça soit plus vendeur. Je voulais pas ça. Ils ont quand même eu le prix de la maison d'édition 2021 HIP, donc c'est un truc qualitatif. Et j'avais peur aussi en étant dans une plus grosse maison d'édition d'avoir moins d'attention. Eux, ils ont leur grosse locomotive qui vendent. Et nous, on arrive au premier livre, c'est toujours un défi, on ne sait pas comment ça va se passer avec le photographe pour une maison d'édition. Là, je savais que j'allais avoir une place, être écouté, accompagné. Ça n'allait pas être « fais ton livre dans ton coin, ramène-nous la maquette toute faite et nous, on l'imprime et on le diffuse ».
Et alors, ce livre, justement, comment on va faire pour l'obtenir ? Il me semble qu'il y a une précommande sur un site en particulier.
Donc voilà, il y a une précommande sur Ulule parce que l'économie des maisons d'édition photographique est particulière. C'est-à-dire que le papier doit être hyper qualitatif, donc coûte très cher. L'impression coûte également très cher. Et il y a tout un accompagnement avec un directeur artistique, quelqu'un qui fait la photogravure, etc. Donc, comme ce sont de petites maisons d'édition, on fait des préventes pour pouvoir s'assurer de pouvoir payer au moins les gens qui ont travaillé sur le bouquin. Et comme ça, on lance l'impression. Et après, le bouquin est diffusé en librairie.
Voilà.
Donc ça, ben, c'est un diffuseur qui s'en occupe, toutes les librairies de France, etc. La FNAC, si j'ai de la chance que ça arrive à rentrer dans le catalogue de la FNAC. Mais après, c'est vraiment comme un livre...
comme un livre normal, d'écrivain.
Voilà, exactement.
Ensuite, il est diffusé dans toutes les librairies.
C'est ça. Et d'accord. Nous, la précommande nous permet en fait de rémunérer les gens qui travaillent à la confection de l'objet.
D'accord, parce qu'une précommande, il y a combien de livres, par exemple, qui sont préparés
Alors, on ne sait pas encore, mais l'objectif est de faire 150 précommandes.
D'accord.
Ce qui n'est pas énorme, hein. Donc on espère pouvoir les avoir. Là, j'en suis déjà, je crois, à une soixantaine. Donc je ne suis pas loin des 50% atteints. Mais il faut continuer à pousser jusqu'au bout. Donc voilà, pour arriver à l'objectif de précommande. Et une fois que ça est lancé, nous, derrière, en plus, on a fait des demandes de subventions. Et normalement, on devrait pouvoir arriver à payer les gens qui vont travailler sur le bouquin pour pouvoir le lancer, quoi, en impression.
D'accord.
Et ensuite en diffusion.
Alors, au-delà de l'aspect économique de tout ce projet, cette histoire, elle fait écho particulier pour chaque famille. Moi-même, j'ai été touchée par l'histoire dès que je l'ai lue. J'ai essayé, moi, d'enregistrer la voix de ma mamie. J'ai essayé de lui faire me raconter l'histoire, mais elle n'a jamais voulu. Donc, comment vous avez fait, vous, pour rentrer dans une telle intimité avec vos grands-parents? Est-ce qu'ils ont été partants pour cette série photographique? Comment ça s'est fait?
Alors, juste avant, je suis content que vous ayez été touchée par cette histoire parce que c'est bien le but. C'est-à-dire que sous forme de carnet intime, en fait, j'essaie de parler de quelque chose d'universel qui est aujourd'hui le fait qu'avec l'avancement du grand âge, du vieillissement, eh ben, on perd tous nos aînés, nos grands-parents, voire nos parents dans certains cas, et on les regarde littéralement disparaître devant nous. Et en fait, on perd le lien, on perd le contact. Et face à ces étapes existentielles qui n'existaient pas avant, qu'est-ce qu'on fait de manière intime, en fait? Et on n'en parle jamais. On n'arrive pas à une soirée et dire « Comment ça va, ta grand-mère qui est en train de disparaître ?» Ben non, en fait, on n'en parle jamais. Il y a un non-dit sur ça. Et depuis plusieurs années, on cachait la mort. Et puis maintenant, on cache le vieillissement et dans les EHPAD et on cache la disparition et tout ça.
Ouais.
Et c'est des sujets qui ne sont pas tabous, mais dont on ne discute pas entre nous sur ce que ça nous fait. Donc, je trouvais ça hyper important. Donc ça, c'était le premier objet, c'est que ce n'est pas qu'une histoire personnelle. C'est on part du jeu pour aller vers le « nous », quoi. Et c'est hyper important. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Il y a plein d'artistes qui ont fait ça, Sophie Kahl, Boltanski. Donc, je suis très content que ça fasse écho. Et comment j'ai convaincu mes grands-parents? J'ai pas eu grand-chose à faire. J'ai été chanceux. C'est-à-dire que ma mamie... Alors, mon papy, j'ai démarré, il avait déjà plus sa tête. Donc, en fait, j'ai pas eu à demander
à
mon papy.
Il a pas trop donné son avis,
non.
Forcément.
Et par contre, j'ai demandé à l'autorisation à l'EHPAD où il était de faire les photos.
Oui.
Et eux m'ont dit oui. Et ils m'ont dit, voilà, juste pas d'atteinte à la dignité humaine. Pas de prise de vue où il est, par exemple, nu, en train d'être lavé par un soignant, quoi.
D'accord.
Ce qui est complètement normal. Oui, oui. Et ma mamie s'est prise au jeu dès le début. C'est quelqu'un qui adore les photos. Elle a posé et pas trop posé de questions. Elle a continué. Et puis même une fois malade, ça l'amuse toujours, en fait, je crois. Je
elle
crois
vous que ça fait l'amuse confiance beaucoup. À 100%,
ouais.
Faites ce que vous voulez.
Et puis, oui, et puis je crois que ça l'amuse beaucoup.
Ouais.
Ma mère, c'est un peu plus difficile parce qu'elle est... ma famille a compris le travail que je faisais, donc ça, c'est une chance. Et par contre, elle aime moins être prise en photo, ma mère, ou elle ne regarde plus les publications, quoi. Donc, ma mamie avait fait la une de Libération sur la maladie d'Alzheimer, par exemple.
D'accord.
Et je me rappelle de ma mère qui voulait pas lui apporter la une. Autant dans Polka Magazine, quand un petit portfolio avait été publié, on lui avait amené. Ma mamie, ça avait un peu trop ramené la mémoire. Voilà. Et ma mère veut plus trop voir les publications. Je pense que c'est le fait de le voir qui est plus dur.
Oui.
Et le fait de le faire la dérange moins. Donc,
je comprends. Est-ce qu'il y aura une exposition de cette série?
Alors pour l'instant, c'est pas prévu,
c'est pas
mais
prévu.
J'aimerais bien.
Plus tard.
J'aimerais bien. C'est un autre rapport, l'exposition. C'est-à-dire que... le livre, c'est un objet intime dans lequel on lit,
oui.
Voilà, avec lequel on a un rapport vraiment très intime, et personnel, il y a les mots. L'exposition, on passe sur quelque chose qui est plus grand, plus large, c'est un autre rapport à l'image. Et,
oui, c'est
on doit resserrer en plus dans une expo. Là, un livre, ça peut être 140 images.
Mm.
Et une expo, de suite, ça devient plus grandiloquent quelque part. Voilà, j'aimerais bien, on verra.
On espère en tout cas... Alors, je rappelle que c'est le projet de Yann Castagny, un livre photographique documentaire qui s'intitule « Je vous regarde disparaître ». Il documente vos grands-parents pendant 15 ans. Et au-delà de ça, on vous invite aussi à aller voir les photographies de Yann Castagny sur son site ou sur les divers journaux et magazines sur lesquels il a été publié. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre livre.
Merci beaucoup.
Merci.